France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Il y a 100 ans, jour pour jour, naissait Mado Robin, la voix la plus haute du monde, mais qui, par-delà cette performance, fut d'abord une artiste fervente, exigeante, aimée de ceux qui l'ont connue. Je suis donc particulièrement heureux pour la célébrer de recevoir le chef d'orchestre Roberto Benzi, qui s'est régulièrement produit à ses côtés. Il est venu ce matin en compagnie de Mathieu Moulin, grand prêtre de l'église des adorateurs de Mado Robin. En fin d'émission, Serge Laïc nous proposera quelques divertissements musicaux. Et la musique, croyez-moi, il la connaît presque aussi bien que l'ami Georgius.
J'étais près d'un vieux monsieur au concert l'amoureux. On venait d'y jouer du Lully, du Mozart, du Puccini. Ce brave homme à mes côtés ne cessait de chanter. Me citait en connaisseur le nom des compositeurs. Ça c'est du Wagner, ça du Verdi. Je lui dis, chacun dans la vie a sa technique. Vous en faites pas, je connais la musique. La clé de sol, la clé de fa, la clé de do. Je sais distinguer de façon très nette une contrebasse d'une clarinette, un trombone, d'un saxo, d'un piano. Je ne confonds pas Werther et le roi Dagobert, le boléro de Ravel avec Cadet Roussel. C'est comme ça dont j'ai le sens pratique. Vous en faites pas, je connais la musique. Je distingue aussi même les yeux clos, un mélomane d'un vieux ballot. Tout au-dessus de chez moi, au sixième sous les toits, vivait un couple d'amoureux, ils étaient branques tous les deux. On le disait très jaloux, hier j'entends des coups. Devant ma fenêtre, je vois passer une chaise, un saladier. J'appelle le concierge, pourquoi s'écrit ? Il me dit, chacun dans la vie a sa technique. Vous en faites pas, je connais la musique. La clé de sol, la clé de fa, la clé de do. Chaque fois que la jalousie l'aveugle, faut qu'il fasse du swing avec ses meubles, là le piano et leur poste de radio. Ça continue de descendre, voilà leur salamande. Mais jamais ils ne jetteront 50 kilos de charbon. Fort heureusement, j'ai le sens pratique. Moi aussi, je connais la musique. J'ai ma fille aînée qui va se marier. Ils me fournissent tout son mobilier. En amour, parce que je la connais, la musique. Allez, la gamme chromatique des grands serments. L'amour majeur, l'amour mineur. Les trémolos, les pauses et les soupirs. Les marches triomphales. Et les valses hésitations, va-t'en, reviens, pars sans te retourner, mais retourne-toi avant de partir, nom d'un chien. Et les grandes envolées musicales, je t'apporte mon cœur, mais prête-moi 50 balles. Et les mauvaises harmonies qui finissent par des fausses notes, avec des coups de pied dans la culotte, ça c'est du hot. Alors voyez que je m'explique et que moi aussi je la connais la musique, hein. Connaissez-vous le grand Titain du faubourg Saint-Martin? C'est un type qui sait nager, qui n'est jamais submergé. Il vous vend des haricots à 50 francs le kilo, du savon à 12 francs le pain qui mousque le lendemain. Mais c'est du marché noir qu'on lui dit, il sourit. Chacun dans la vie a sa technique, vous en faites pas, je connais la musique. La clé de sol, la clé de fa, la clé de do. Voulez-vous une très jolie volaille, aussi solide que de la pierre de taille? 300 balles, c'est pas mal, c'est pas trop. C'est un poulet de 5 ans qui est mort rhumatisant. J'ai aussi un lapin, c'est le chat de la mer, ton pain. Que voulez-vous, j'ai le sens pratique. Avant tout, je connais la musique. Je suis prêt si vous êtes acheteur à vous vendre ma femme et ma sœur.
L'excellent Georgius qui ici mêle évidemment le sujet de la musique avec celui du marché noir parce que c'est une chanson de 1941 accompagnée par l'excellent orchestre de Pierre Chagnon. Tiens d'ailleurs si vous voulez tout savoir sur Pierre Chagnon, le mieux c'est de consulter Les arrangeurs de la chanson française, l'excellent livre qui vient de paraître de notre ami Serge Laïc qu'on retrouvera tout à l'heure après le spécial Mado Robin.
Thank you.
Tony Murena, le grand accordéoniste Tony Murena, en 1948 dans cette valse hindoue.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais je vous le disais, je suis très heureux ce matin de recevoir un chef d'orchestre qui a commencé sa carrière, tenez-vous bien, il y a 70 ans, il était encore tout jeune à l'aube d'une très grande carrière. Et puis il était venu également dans cette émission évoquer son épouse, la regrettée Jeanne Rhode. Il est là donc avec nous ce matin, Roberto Benzi, ainsi que Mathieu Moulin, qui sont ensemble pour évoquer le souvenir de Mado Robin. Bonjour Roberto Benzi.
Bonjour Benoît.
Merci d'être avec nous ce matin. Ça, c'était à Vichy en 1957. Est-ce que vous vous rappelez précisément ce concert ?
Oui, bien sûr. J'ai fait en fait peu de concerts dans cette courte période où, avec Mado Robin, nous avons travaillé ensemble, bien sûr. Et je me souviens très bien de celui-là à Vichy, car le festival de Vichy, c'était très important
à l'époque, il faut le dire.
Ben, il faut dire aussi que la salle est magnifique. Alors, bref, cet enregistrement en témoigne, la qualité du son, quand même, compte tenu de l'époque,
oui.
Je crois, est remarquable. Et bien sûr, les prestations de Mado Robin, c'était quelque chose d'éblouissant.
Alors, on a entendu, évidemment, la note très, très aiguë, un contre si bémol, me disait Mathieu Moulin à la fin. Mais est-ce que c'est ça que vous retenez le plus de Mado Robin, ses performances dans l'aigu?
Pas vraiment. Enfin, entre musiciens, on l'appréciait pour sa simplicité. Elle était tellement populaire, tellement adorée du public et tout ça. Et à la fois tellement simple comme personne. Donc, les rapports entre nous étaient vraiment très agréables. Et donc, je rappelle que j'ai fait ensuite un autre concert avec elle au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis, je suis dans le désordre, là. Enfin, il y a eu quelque chose aussi au Veldiv.
Ouais.
Quelque chose de tout à fait particulier. Mais enfin, c'était un concert. Parce que le reste du temps, quand nous avons collaboré ensemble, elle chantait Rosine dans le Barbier de Séville que je dirigeais.
Alors ça, on l'évoquera tout à l'heure parce que c'était vraiment votre rencontre.
Oui.
Mais en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin pour évoquer ces souvenirs de tout jeune chef d'orchestre. Encore que vous n'étiez pas à vos débuts, hein, en 57. Vous aviez une vingtaine d'années, mais vous aviez déjà commencé la carrière depuis 10 ans.
Ben oui, j'ai commencé très tôt, comme
très
vous
tôt,
savez.
Comme on le sait,
alors,
voilà.
Mais la rencontre avec Mado Robin, quand même, elle a été ma marraine dans le lyrique. La première fois que j'ai dirigé un opéra
entier,
c'était avec elle. Et bref, il y a eu des rapports d'affection.
Il y a d'ailleurs là une très jolie photo que vous avez apportée. On vous voit tous deux côte à côte, le jeune homme et la diva.
C'est dans la loge, du Grand Casino de Vichy.
Voilà, écoutez, on est très heureux de vous recevoir ce matin pour parler de Mado Robin, mais aussi évidemment un petit peu... De vous, et on est content aussi que vous soyez avec Mathieu Moulin. Bonjour Mathieu.
Bonjour Benoît.
Voilà, j'ai dit le grand prêtre de l'église des admirateurs de Mado Robin. J'ai ressorti le nombre de disques que vous avez édités chez Marianne Mélodie, dont vous êtes le responsable artistique de Mado Robin. J'en ai une pile entière. Ça ne s'arrête jamais.
L'ultime vient de sortir. Ça sera peut-être le dernier, parce que j'ai vraiment fait le tour.
Vous avez tout édité de Mado Robin?
Ah oui. Là, oui, j'ai tout édité. Puis il y a eu aussi le documentaire en DVD, qui est très important, puisque Roberto participe à ce film. Et malheureusement, il n'y a plus rien de vraiment trouvable. Elle a enregistré très peu de choses et elle a une carrière malheureusement très courte.
Et vous êtes tombé dedans tout petit, hein ?
Ah oui, je cherchais ma voix VOX.
VOX.
Et je l'ai trouvée.
Et vous l'avez trouvée, alors vous êtes d'une fidélité merveilleuse. On va donc pouvoir évoquer un peu ensemble, tous les trois ce matin, quelques souvenirs de Mado Robin. Mais tiens, pour accueillir dignement quand même notre cher Roberto Benzi, j'ai ressorti un enregistrement d'orchestre pur, là. Il s'agit d'une œuvre peu connue, Piperman Jet, une valse de Déodat Sévrac, un très beau disque que vous avez fait avec la Suisse romande. Alors, comme c'est bien dans le ton de l'émission, on va tout de suite retrouver les trois temps de Déodat Sévrac. Peppermint Jet, c'est le nom de cette valse de Déodat Sévrac, l'orchestre de la Suisse romande, que vous dirigez, Roberto Benzi, en 2006, un disque assez récent consacré à ce grand compositeur.
Oui, c'était une première mondiale en ce qui concerne les œuvres pour orchestre de Déodat Sévrac.
Merveilleux musicien.
Oui, c'était un homme très particulier, assez mal organisé pour tout ce qui concerne les éditions et tout ça, mais enfin, c'est en partie ce qui explique peut-être que, parce que c'est divers éditeurs, c'est mal compilé, enfin bref.
Et Debussy, qui avait la dent dure, aimait sa musique. Hein.
Et oui, il a même dit de sa musique, c'est de la musique qui sent bon.
Voilà, c'est vrai,
Le mot est très joli.
Et en tout cas, voilà, ça nous amènera d'une certaine façon, nous ramènera à notre sujet de Mado Robin, Roberto Benzi, parce que il faut dire que vous avez, depuis toujours, comme chef d'orchestre, vous avez tout dirigé, mais vous avez quand même une prédilection pour la musique française, peut-être pour cette demi-teinte qu'on trouve aussi chez Chabrier et chez d'autres compositeurs de cette époque.
Oui, c'est vrai que depuis mes débuts dans la direction d'orchestre, j'ai fait une large place au répertoire de musique française, en particulier lorsque j'ai été chef titulaire à Bordeaux pendant 14 ans. Oui. Nous avons fait quelques tournées, nous avons fait des disques, etc. Et c'était toujours orienté plutôt vers la musique française. Ce qui a fait que j'ai beaucoup enrichi mon répertoire, évidemment, dans cette direction, mais par goût également.
Hein. Il faut dire d'ailleurs que vous aviez eu un maître, je ne sais pas si ça a beaucoup compté dans votre formation musicale, mais qui, autant pour l'opéra que pour le répertoire français, a été un grand maître, c'était André Clutin.
Et bien sûr, oui, bien sûr que ça a beaucoup compté, parce que comme j'ai assisté à de nombreux concerts qu'il dirigeait avec la Société des concerts du Conservatoire,
voilà, c'est ça.
Il m'a donné une certaine impulsion dans cette direction-là, si je peux dire. Mais enfin, par goût, quand même, mon cœur bat très fortement lorsqu'il faut défendre une œuvre française, surtout, par exemple, des œuvres comme ça inconnues, en quelque sorte. Une première mondiale, c'est toujours quelque chose à faire, surtout d'une personnalité particulièrement intéressante, comme ça, un peu méconnue.
Alors, la musique française, il faut dire, je me tourne à nouveau vers Mathieu Moulin, pour revenir donc à Mado Robin, c'est ce qu'elle a chanté principalement, et elle a aussi chanté toutefois le répertoire italien. Et à l'époque, il y avait encore des grands débats pour savoir s'il fallait le chanter en français ou en italien. On a entendu Lucia de la Mer Mour tout à l'heure, justement dirigé par Roberto Benzi. Là, c'était en italien.
En italien.
Et c'était des débats autour d'elle assez prononcés encore à ce moment-là.
Vous savez, dans les années 50, 40-50, on chantait le répertoire en français. C'était une mode, une habitude.
À l'opéra comique en particulier.
Absolument. Ouais. Je pense à La Flûte enchantée aussi qu'elle a fait en 54 devant René Coty. en français, il y avait Jeannine Michaud et plein d'autres artistes.
Voilà, on traduisait beaucoup.
Exactement, oui. Exactement.
Mais elle préférait finalement peut-être chanter Lucia quand même dans la langue originale.
Oui, et puis elle répétait vraiment très sérieusement tous les jours. Hein.
Pour faire un bon italien.
Absolument. Oui. Elle avait pour la voix et ensuite pour les langues, parce que elle chantait dans plusieurs langues. J'avais rencontré Simone Féjard qui m'avait d'ailleurs raconté tout ça.
Qui était une grande chef de chant de l'époque. Hein.
Et oui, qui l'accompagnait aussi beaucoup au piano, qui la faisait répéter tous les jours inlassablement. Mado était une très très grande travailleuse.
Travailleuse. Oui. Alors, dites-nous, on va revenir tout à l'heure à sa rencontre avec Roberto Benzi, mais en quelques mots, à quel moment et de quelle façon Mado est apparu dans toute sa splendeur au grand public de l'après-guerre.
31 octobre 42, Salgavo déjà, on présente pour la première fois Mado Robin malgré la guerre. C'est Mario Podesta, son professeur de l'époque, qui crée un événement. Oui. Et déjà, il joue sur les notes très hautes. Oui. C'est comme ça qu'il attire le public. Et à la Libération, effectivement, avec la création de L'Acmé, de Rigoletto et d'autres ouvrages, elle a chanté Les Pêcheurs de Perles, Castor et Pollux, des choses incroyables. Là, le public a vraiment mis un visage
sur cette
voix.
Elle est tout de suite une star, donc, à la Libération.
Absolument.
La voix la plus haute du monde, vous utilisez vous-même volontiers cette expression. C'est pas un petit peu réducteur pour l'art de Mado Robin?
C'est pas réducteur dans le sens où les notes qui sont chantées le sont vraiment. C'est pas un cri, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais voyez, sur la dernière compilation, je n'ai pas remis cette espèce de sobriquet. Pour moi, c'est au firmament des les voix, il y a Mado Robin. Donc c'est une voix au firmament.
D'autant plus qu'on a, je l'avais reçue ici grâce à vous, une autre voix la plus haute
bien
du
sûr,
monde.
Rappelez, Eve Brenner.
Laquelle monte plus haut entre Mado et Eve?
Mado monte très très haut et je pense elle reste pour l'éternité la plus haute du monde, bien sûr, avec ce fameux contre-contrute.
Contre-contrute, voilà. Tout à l'heure, c'était qu'un si bémol. Si Roberto Benzi, oui, je vous en prie.
Il y avait un phénomène chez elle, vocal, des cordes vocales, de la manière dont elle se servait des cordes vocales dans ses...
Dans ses suraigus,
oui. Il y a des grands ORL de l'époque qui se sont intéressés au problème et ont analysé les choses avec des appareils médicaux très sophistiqués.
Pour essayer de
comprendre. Parce que c'était un phénomène. Enfin,
un phénomène,
ouais. Elle était unique un peu dans ce genre.
Oui, les savants se sont intéressés. Les phoniatres, comme on
dit. Les phoniatres. Alors on va justement retrouver tout de suite une note encore très très aiguë. C'est dans L'Oiseau d'Henri Février. Je sais pas si c'est un contre quoi. Non, on va voir tout à l'heure. Bon, en tout cas, on va surtout retrouver d'abord la voix de Mado Robin qui aussi, dans une émission de 1955, évoque avec les deux animateurs de l'époque sa jeunesse et ses débuts.
Mado Robin, vous êtes né en Touraine, je crois.
Oui, à Yzeure-sur-Creuse, en Indre-et-Loire.
Dès votre jeune âge, vous aviez déjà le goût du déguisement, la passion du théâtre.
Oui, en effet, c'est exact. Toute petite fille, à 4 ans ou 5 ans, je m'amusais déjà à me déguiser, à me maquiller et je chantais toute la journée.
Votre sœur étant pianiste, vos parents musiciens, quoi d'étonnant à ce que vous ayez toujours chanté.
Mais c'est à 14-15 ans que vous rencontrez Tita Ruffo.
Oui, j'ai rencontré Tita Ruffo chez des amis et je ne pensais pas du tout à ce moment-là ni prendre de leçons, ni faire ma carrière. Et c'est lui qui m'a encouragée.
Mais que vous faisait-il travailler, entre autres?
Eh bien, j'ai commencé par une mélodie de Delacroix, La Villanelle.
Pourtant, vos véritables débuts ne seront pas publics, puisqu'ils auront lieu chez Pathé Marconi, pour qui vous enregistrez La Gitane et l'Oiseau, la chanson de Solveig, la chanson Bohème et bien d'autres disques encore, dont le fameux Éclat de rire de Manon Lescaut.
Peu de temps après, c'est votre premier récital.
Oui, mon premier récital et entre autres, j'ai chanté L'Oiseau de Février.
En 1944, vous chantez à l'ABC dans un programme, aussi curieux que cela puisse paraître, où figurait également Georges Hulmer.
Oui, en effet, Georges Hulmer faisait partie de ce programme.
Et vous chantiez quoi?
Les filles de Cadix.
N'est-ce pas à cette époque que vous avez fait la connaissance d'un chanteur devenu depuis célèbre?
Oh oui, très célèbre, puisqu'il s'agit d'Yves Montand. Je rencontrais à ce moment-là très souvent Yves Montand, puisque nous faisions des galas qui étaient radiodiffusés dans les hôpitaux. Et à peu près toutes les semaines, je retrouvais Yves Montand dans ces hôpitaux avec d'autres artistes.
Oh!
L'oiseau d'Henri Février. Vous disiez la note finale, Roberto
pense
Benzi.
Que c'est si bémol.
Mais à nouveau le si bémol.
Ma mémoire, comment dire, ou plutôt mon oreille absolue, c'est quelque peu déformée.
Avec les années, ça change un
années,
petit peu.
Hélas, je dois avouer que parfois, un demi-ton près, surtout aussi en rapport avec le diapason baroque et tout ça. Enfin, c'est un domaine où c'est un peu moins stable que ça ne l'était du temps de mon enfance.
Un enregistrement, en tout cas, qui avait été réédité par notre ami Renaud Machard dans la collection Ina Mémoire Vive. Vous le connaissez évidemment, oui. Mathieu Moulin, puisque vous connaissez tout Mado Robin. Mais alors, c'était intéressant la façon dont elle évoquait dans cette petite interview ses rencontres avec Georges Hulmer, avec Yves Montand, parce que au-delà de l'anecdote, c'est quand même une artiste, Mado Robin, dont la carrière s'est déroulée pour une part dans l'art classique, lyrique pur, et puis aussi aux frontières de la variété, d'une certaine façon.
Elle adorait les variétés, elle adorait le jazz, elle adorait aller voir des amis en spectacle, et surtout, elle est l'une des rares cantatrices à avoir participé à des émissions publiques comme La Joie de Vivre, 36 Chandelles, etc., où elle venait chanter des choses très difficiles avec une facilité déconcertante.
Et puis, elle a fait des disques de chansons, il faut dire Froufrou, les chansons 1900, etc. C'est peut-être pas ce que vous préférez.
Ça, c'est par
mais...
choix.
Pas un choix, ça, d'accord.
C'est par choix. Elle a vraiment voulu enregistrer ça.
D'accord, donc elle en a fait un certain nombre. Hein.
Avant, il y avait ce que vous venez de diffuser, des mélodies d'oiseaux, ce qu'on appelle...
Alors ça, c'est un genre à part. Hein. Elle en a fait beaucoup. La gitane et l'oiseau, l'oiseau de février, etc. C'est vraiment un répertoire spécialement conçu sur mesure pour ses voix très aiguës. Hein.
Oui, on éditait même des partitions avec sa photo, comme pour des chansons tout à fait traditionnelles.
Voilà.
Et elle a enregistré entre 42 et 50... toute une liste de 78 tours pour gramophone, La Voix de son maître, avec ce répertoire vraiment merveilleux parce que c'est très frais, c'est très pur. Et puis elle a une vingtaine d'années.
Voilà, mais alors toute la construction du morceau de musique est toujours vers la dernière note qui est généralement la plus aiguë du morceau.
Hein. C'est vrai.
Un peu une construction presque théâtrale comme ça.
À partir de 1950, elle va signer chez Decca et là elle attaque véritablement les grands rôles lyriques et elle enregistre, comme vous le savez, L'Acmé, Le Barbier, Lucia, Hamlet aussi d'Ambroise Thomas, des choses merveilleuses jusqu'à L'École des Maris. Et puis, vers la fin de sa carrière, elle s'oriente vers les froufrous et autres fascinations, le temps des cerises, parce qu'elle aimait profondément ces chants traditionnels français. Et puis, Traviata, bien sûr, de Verdi. Valse de Vienne, rêve de valse. Elle évoluait, si vous voulez, sa voix aussi. Elle voulait devenir un peu plus soprano lyrique, mais malheureusement, elle nous a quittés trop tôt.
En 1960. Alors, on va revenir justement à ces grands enregistrements du répertoire lyrique, parce que ça coïncide avec votre rencontre avec elle, Roberto Benzi. On est donc en 1954. Vous avez 16 ans et vous êtes une star, hein? Il faut dire.
Oui, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas...
Vous avez commencé votre carrière, il faut rappeler, à l'âge de...
En 1948.
48, vous aviez à peine 10 ans.
Enfin... Oui, 10 ans.
Et puis, vous avez été consacré, si on peut dire aussi, par deux films qui vous ont rendu très célèbre auprès du grand public, au fond, au-delà des limites du classique, un peu comme Mado Robin. Hein.
Exact. Le premier s'appelait Prélude à la gloire et le deuxième, L'appel du destin.
Voilà. Et ensuite, donc, vous commencez vraiment la carrière, sérieusement, parce que c'est la musique qui vous intéresse plus que le cinéma.
Eh bien, nous devons cette rencontre, je dois cette rencontre au directeur de l'Opéra de Marseille.
De Marseille.
Qui s'appelait Monsieur le Duc et qui a voulu que je dirige pour la première fois. Je suis né à Marseille.
Oui, c'est vrai. D'origine italienne, mais marseillais. Oui.
Et donc, il a souhaité que je dirige pour la première fois un ouvrage lyrique complet.
Ouais.
Dans son théâtre, à l'Opéra de Marseille, et avec une magnifique distribution, dont Mado Robin, en quelque sorte, donc, était un peu ma reine dans le lyrique, si vous voulez. Mais elle était déjà une grande star à cette époque.
Ouais. Vous avez senti, d'ailleurs, à ce moment-là, et par la suite avec elle, ce qu'on évoquait avec Mathieu Moulin, c'est-à-dire que cette gloire qui allait bien au-delà du simple public des mélomanes classiques, qui était vraiment une espèce de gloire populaire, ça se sentait
bien
quand
sûr,
on était avec elle.
C'était un peu son côté spectaculaire, si je veux dire, enfin particulier, si vous voulez. C'était une personnalité un peu à part dans le monde lyrique.
C'est ça.
Était vénérée par le public, ce qui était très agréable, évidemment. Et donc, cette rencontre a été très importante pour moi et s'est ensuite renouvelée dans un certain nombre de théâtres en France. Je citerai Lyon, Nice, Angers, je ne sais plus d'autres.
Arles.
Oui.
Toulon.
Oui.
Nancy.
Oui. Et bref, c'était donc toujours une nouvelle expérience très importante pour moi parce que le lyrique, quand même, c'est un complément très important pour un chef d'orchestre. Je veux dire qu'il faut donner une certaine souplesse supplémentaire aux solistes par rapport au concert symphonique, si vous voulez, du fait qu'ils sont en scène, enfin qu'il y a la mise en scène, etc.
Mais elle travaillait, elle vous écoutait, c'était pas, elle n'avait pas des comportements, comme on dirait, de diva.
Absolument pas, c'était le contraire de ça.
Enfin, oui, c'est ça.
Et en plus, il y a eu une très grande sympathie entre nous qui a tout de suite pris le dessus de sa part, un grand enthousiasme de travailler avec moi. Un certain nombre de ces spectacles que j'ai cités ont été faits à son initiative, c'est-à-dire qu'on l'a demandé dans le Barbier de Séville et elle m'imposait plus ou moins comme chef d'orchestre. Enfin, c'était un peu le canevas.
Elle avait également pour partenaire un chanteur que j'adore et que j'évoque souvent ici, qui était Michel Danse, hein,
qui était
présent à l'époque. Vous l'avez bien connu aussi, j'imagine.
Dans cette première distribution de Marseille dont je parlais, mais bien d'autres fois, évidemment, c'était un Figaro idéal. Il avait une désinvolture en scène extraordinaire.
Ah oui, c'était l'acteur autant que le chanteur.
Fantastique. Oui. Un Figaro exceptionnel. Je voudrais juste dire un petit mot concernant, justement, on a parlé de texte original, etc., traduction française.
Oui.
Il se trouve que la version française du Barbier de Séville avait une certaine noblesse, si je peux dire, car ce n'était pas tout à fait la traduction de la version italienne. Tout ce qui était récitatif au clavecin ou au piano, enfin, dans la version italienne, n'était pas traduit par ce Castilblaze qui, à l'époque, donc, s'est occupé de ça, j'ai reçu l'autorisation. Ouais. C'était en fait le texte original de Beaumarchais.
Chez Beaumarchais, voilà.
Et ça donnait vraiment une consistance à ces scènes extraordinaires et une possibilité pour les chanteurs, pour la distribution, de s'exprimer vraiment en tant qu'acteur, vous voyez,
c'est
sur scène.
C'est pour ça que cette pièce française a été si longtemps chantée en français.
En fait, toutes les fois que j'ai dirigé des Barbiers avec Mado Robin, ce fut en français.
Alors, on va justement la retrouver, Mado Robin, dans cette émission La Joie de Vivre d'Henri Spade, où elle évoque d'abord, elle aussi, sa rencontre avec le jeune Roberto Benzi. Et puis, tout de suite après, donc dans un extrait du Barbier, dirigé toujours par vous-même à Vichy, en 1957.
Y a-t-il eu dans votre vie de chanteuse une joie à laquelle vous ne vous attendiez pas ?
Oh, mais oui, certainement. Il y a 2 ans à Marseille, lorsque j'ai eu le plaisir de chanter Le Barbier de Séville, dirigé par Roberto Benzi. Je vous avoue que lorsqu'on m'a engagée pour chanter Le Barbier là-bas, on m'a dit c'est Roberto Benzi qui va vous diriger Le Barbier et c'est le premier ouvrage lyrique qu'il va diriger. Je le dis très franchement, j'étais un petit peu sceptique et je me suis dit, mon Dieu, c'est très bien, sûrement, mais en fait, tout de même, pour la première fois, s'attaquer à un ouvrage comme Le Barbier de Séville. Et j'ai été absolument émerveillée. C'était quelque chose d'extraordinaire et j'ai vraiment entendu dans tout l'ouvrage, mais surtout dans l'ouverture du Barbier de Séville, des choses que je n'ai jamais entendues. C'était extraordinaire, c'était vraiment magnifique et c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai dans ma carrière.
Oui, je suis douce, encore.
Contrefin, dit Roberto Bendi. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que le public commence à applaudir sur la note, hein, comme si c'était vraiment la performance qu'on applaudit sans attendre vraiment la fin de la musique. En tout cas, vous le rappeliez encore, hein, Roberto Bendi, disons-le, Vichy, jusqu'à la fin des années 50, au moins, a été un très haut lieu, le plus grand festival de France, en fait, pendant l'été, avant, en même temps que l'ascension de d'Aix-en-Provence et d'autres lieux, mais c'était vraiment le grand rendez-vous de la musique.
Oui, bien sûr, on y a créé, d'ailleurs, en version française, la Salomé de Richard Strauss.
Et oui, voilà,
je ne sais plus exactement quelle année, mais bon, c'est la première allemande de 1905, mais... Ça doit être avant 1910, à mon avis.
Alors, Madeleine Robin nous a quittés très jeunes, hein, en 1960. Rappelez-nous...
Le 10 décembre, elle avait 41 ans, oui. Elle est partie d'un cancer, hein, déjà, ouais. qui malheureusement ne s'est pas soignée à temps.
Voilà. En 1960, vous vous rappelez la mort de Madeleine Robin, Roberto
Bendi ? Oui,
Benzi.
Hélas, j'ai assisté aux obsèques, évidemment. Tous ces grands projets dont nous parlons, c'est chez Lonne, donc il y a une période relativement courte, entre 1954, Marseille, et puis...
Et sa mort en 1960. Et
bien que nous avons vu dans le Pressbook, quelques mois avant, début 60, nous avons encore fait quelque chose ensemble, Barbier à Toulon.
Oui, oui. Oui.
Donc, ce fut notre dernière collaboration.
Mais elle était malade, elle le sentait, elle l'a montré ou pas vraiment?
Moi,
pas dans
je
souvenir.
N'ai pas eu tellement d'écho de cette maladie. Enfin bref, c'est survenu assez abruptement en ce qui me concerne en tout cas.
Alors Roberto Bendi, on va faire une petite parenthèse parce que je n'ai pas besoin de rappeler, mais moi je m'en souviens avec une tendresse particulière parce que j'avais eu beaucoup de plaisir à la recevoir ici. Vous avez été ensuite l'époux donc de Jeanne Rhode. Une petite question, elles ne se sont pas connues ou côtoyées au théâtre?
Non, hélas pas. Non.
Jeanne Rhode et Madeleine Robin.
Non, ça aurait pu.
Dans certaines œuvres sans
non,
doute, oui.
Non, en fait elles ont jamais chanté ensemble, enfin dans une même distribution en tout cas. Voilà. Mais Jeanne Rhode savait évidemment qu'elle place importante dans ma carrière et dans ma vie avait été celle de Madeleine Robin, qu'elle admirait énormément, bien sûr.
Et d'une certaine façon, avec Jeanne Rhode, vous avez poursuivi aussi cette carrière tournée vers l'art lyrique et pas seulement vers l'art symphonique.
Oui, c'est vrai que, comment dire, il y a eu une période très riche en production lyrique à cette époque-là de ma vie, c'est-à-dire entre 54 et puis, mettons, je ne sais pas... 65, quelque chose. Et puis, ensuite, la carrière s'est vraiment orientée exclusivement vers le symphonique. Je dois dire que, compte tenu de quelques difficultés, parfois de relations entre le chef et les metteurs en scène qui se lancent dans des aventures...
C'est pas fini, en plus.
je dois dire que, enfin, je ne regrette pas ce qui s'est...
D'avoir quitté destin... les maisons d'opéra. Voilà. Alors, on va vous retrouver tout de suite, Roberto Bendi, dans un autre enregistrement légendaire, c'est justement la Carmen enregistrée par Jeanne Rhode qui l'a chantée je ne sais combien de fois à l'opéra, mais enfin elle a été la grande Carmen, on peut dire, des années 60. Hein.
Bien sûr, oui, voilà. Oui, elle a apporté quelque chose de tellement personnel, puis cette mise en scène de Raymond Rouleau était quelque chose d'assez fastueux à l'opéra. Donc, c'était la première fois qu'on jouait Carmen au théâtre à Garnier.
De l'opéra, hein. Et pas à l'opéra comique où ça avait été créé.
La création.
Par de Séville, j'ai mon papier. Anastasia, hier redose la seque, die parre di manzanilla. Hier escemo la vera Anastasia. Selon s'ennuie, et les vrais plaisirs sont à deux, donc pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amoureux. Mon amoureux, il est tout diable, je l'ai mis à la portière, mon pauvre cœur est très consolable, mon cœur est libre comme l'air. J'ai des galants à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine qui va m'aimer. Je l'aimerai, qui va mon âme apprendre. Vous arrivez au bon moment. Je n'ai guère le temps d'attendre, car avec mon nouvel amant.
Et toi, je t'avais dit de ne pas me parler.
Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Et je pense, il n'est pas défendu de penser. Je pense à certains officiers, je pense à certains officiers qui m'aiment et qu'à mon tour, oui, qu'à mon tour, je pourrais bien m'aimer.
Normal.
Mon officier n'est pas un capitaine, pas un lieutenant. Il n'est que brigadier, mais c'est assez pour une bohémienne. Et je daigne m'en contenter.
Carmen, je suis comme l'homme ivre. Si je cède, si je te livre, ta promesse.
Jeanne Rhode dans Carmen en 1960, toujours sous la direction de Roberto Benzi. On a entendu aussi la voix d'Albert Lance dans ce disque Philips très marquant avec l'orchestre de l'Opéra de Paris 1960. Donc c'est à la fois l'année de votre Carmen avec Jeanne Rhode et puis l'année tristement donc de la disparition de Mado Robin, Mathieu Moulin. Encore un petit mot. Elle a laissé quand même, pour quelqu'un qui est mort en 1960, une empreinte étonnante. On pense à eux, simplement à Luis Mariano ou à des personnages comme ça, voilà, pour cette mémoire qui dure.
Les gens uniques, de toute façon, laissent forcément une trace. Et puis les générations... Moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu Mado, j'ai 40 ans. Mais à partir du moment où j'aime, j'ai envie de partager et de transmettre. Et puis j'ai promis à sa nièce, qui m'a vraiment tout donné sur Mado, Denise Payet, qui n'est plus là, de continuer à perpétuer son souvenir et sa mémoire. Et la preuve, je suis là chez vous.
Voilà.
Aujourd'hui.
Et la preuve, les courriels d'auditeurs qui arrivent pendant l'émission, qui sont enchantés d'entendre Mado, d'entendre Roberto Benzi, et cette auditrice qui nous dit les deux ensemble, c'est le bouquet de fin d'année, vous voyez. C'est très, très bien pour cette émission, effectivement, la dernière de l'année, et pour laquelle nous allons maintenant retrouver, je crois, au téléphone, monsieur Geoffroy Boulard, qui est le maire du 17e arrondissement de Paris, et qui a fait, voilà, un geste symbolique, mais fort intéressant en faveur justement de la mémoire de Mado Robin. Bonjour Geoffroy Boulard.
Bonjour à vous.
Bonjour, vous m'entendez? Oui, vous êtes parti préparer le réveillon un peu loin de Paris, mais vous êtes avec nous ce matin, c'est très gentil à vous. Et donc vous avez décidé de baptiser dans le 17e arrondissement un lieu qui est désormais donc le centre culturel Mado Robin. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce choix?
Mais c'est d'abord une rencontre l'année dernière avec une amie artiste, Dany Lupi, hein, qui vit dans le 17e.
La femme de Lucien Lupi, le chanteur, absolument.
Voilà, le baryton chanteur d'opérette Lucien Lupi, et qui m'a parlé pour la première fois de Mado Robin, qui avait vécu aussi dans l'arrondissement. Alors je me suis renseigné sur l'artiste, et puis j'ai découvert sa courte et exceptionnelle carrière, notamment au plan international. Il se trouve qu'ensuite, il y a eu une demande de dénomination d'un centre culturel, une maison de quartier, un nouvel équipement dans un de nos nouveaux éco-quartiers Clichy-Batignolles, avec animation culturelle et loisirs. Et spontanément, j'ai pensé à Mado Robin, d'autant que la rue voisine de cet équipement avait une coloration musicale avec des noms comme Mislav Rostropovitch ou Yvette Gilbert. Donc je trouvais que c'était assez cohérent.
Ah ben écoutez, c'était une très belle initiative. C'est rue Rostropovitch, je crois. Hein.
Alors voilà, c'est rue Rostropovitch et le centre Paris Anime Mado Robin est voisin de l'allée Yvette Gilbert dans cette rue Mislav Rostropovitch. Donc je trouvais que c'était intéressant. Et en juin 2018, le Conseil de Paris a voté à l'unanimité ma proposition de dénomination de cet équipement et qui avait été voté dans le 17e un mois plus tôt.
Eh ben, on en est très content et on vous en félicite sur France Musique. J'espère qu'on vous a pas traité de ringard en allant chercher le nom d'une vieille chanteuse des années 50, aujourd'hui disparue, Mathieu Moulin, et scandalisé par ce que je viens de dire. Moi, je trouve ça très bien, mais sans blague, tout le monde a compris que vous choisissiez Mado Robin puisqu'il y a eu l'unanimité, vous nous dites.
Tout à fait, unanimement salué. C'est l'occasion aussi c'est notre patrimoine musical. Et dans les années 50, moi j'étais comme Mathieu Moulin, je n'ai pas connu Mado Robin, parce que j'ai 40 ans, mais je trouve que c'est important, quand on crée un nouveau quartier aussi, de donner une identité, et puis de remettre au goût du jour aussi des talents exceptionnels, comme cette voix la plus haute du monde, hein, qui voilà. Notamment a bercé, bon nombre de Français à la radio dans les années 50. J'ai lu tout cela et je me suis intéressé à sa carrière et à sa vie.
Et j'ajoute, Geoffroy Boulard, que vous êtes le maire d'un arrondissement très, très musical, puisque c'est aussi dans le 17e que se trouve l'École normale de musique. C'est dans le 17e qu'ont vécu des grands compositeurs comme Vincent Dindy et d'autres. Voilà, vous avez un patrimoine particulier, je crois, hein, dans cet arrondissement.
Tout à fait, avec Claude Debussy, mais également Gabriel Fauré. On a effectivement un dynamisme autour de la, notamment de la plaine Monceau, hein, et elle habitait notamment la rue Ampère dans ce quartier d'artistes.
Voilà, c'était vraiment un quartier d'artistes, il faut le dire. Et monsieur Geoffroy Boulard, donc je vous remercie d'être venu ce matin à l'antenne pour nous le rappeler. Bravo encore pour ce choix que vous avez fait. Et je vous souhaite, en attendant peut-être une prochaine rencontre, d'excellentes fêtes pour le réveillon de fin d'année.
Et vous différente, Mado Robin, quand vous chantez au micro, au théâtre ou au concert?
Oui, très différente. Il nous faut, nous, à artistes lyriques, nous avons absolument besoin du public, de voir le public. Le public est une chose qui nous est indispensable. Le micro, par exemple, est une chose qui nous paralyse, voyez-vous, parce que nous ne sentons pas, nous ne voyons pas la réaction, nous ne sentons pas du tout. Et ça, c'est une chose qui nous paralyse toujours, le micro. Et nous avons besoin de voir le public. Cela nous aide énormément.
Et pour le travail, travaillez-vous devant un micro?
Ah oui,
c'est utile de vous entendre.
C'est très utile, très très utile. On ne s'entend, on ne se rend pas très bien compte. On sait bien sûr si on a fait une chose mauvaise ou si ou une bonne chose, mais il y a des fois des choses si petites, si infimes que vraiment seul le micro peut vous faire entendre. Alors je travaille beaucoup avec le micro, énormément.
Sans bruit et rien à la nuit.
et tous les lyricomanes auront reconnu les clochettes de l'Acmé. Avec... C'est drôle, toujours cette fin, on se demande si c'est le compositeur pour mettre en valeur la note ou si c'est plutôt pour une question vocale. On a l'impression que la note aiguë, elle est préparée par une longue tenue un peu plus grave et puis tout d'un coup le saut final. C'est ben toujours oui, un peu le même principe, pas, Roberto Benzi.
On
ne
peut pas directement aller sur des notes comme ça. Enfin, ouais. Ça peut même être dangereux sur le plan vocal. Vous voyez,
oui, c'est ça. Voilà.
Préparer le tremplin.
Par, voilà, si par palier, oui, c'est ça. Oui. Et c'était donc oui, ce merveilleux L'Acmé, opéra qu'on joue trop peu, mais enfin on l'a redonné il y a quelques années à l'Opéra Comique. Et donc vous avez aussi enregistré cette air, ou dirigé cette air du moins avec
elle en soliste, oui, parce que c'était l'un de ses grands classiques, si je peux dire. Enfin, L'Acmé, c'était un rôle qui lui convenait particulièrement bien.
Il faut d'ailleurs peut-être, pour finir, Mathieu Moulin, bien distinguer tous les airs donc typiques du répertoire de colorature qu'elle a enregistré pour certains plusieurs fois, et puis les rôles qu'elle a vraiment joués complètement un certain nombre de fois à l'opéra, et là qui sont évidemment un petit peu moins nombreux, mais L'Acmé en fait partie.
Oui, et c'est d'ailleurs le seul ouvrage qu'elle a enregistré intégralement.
Intégralement, voilà.
À notre grand regret à tous, de Lucia, de la Mermoure et Hamlet, ou encore le Barbier, n'ont jamais été enregistrés.
Mais elle les a joués intégralement en scène,
tous.
Intégralement,
bien
voilà,
entendu.
Voilà.
Et d'autres ouvrages encore, le Rossignol de Stravinsky par exemple,
qu'elle a créé hein,
à la radio.
Voilà, à la radio.
On ne retrouve pas malheureusement les bandes.
Ah bon, Lina n'a pas ça dans ses
c'était stocks. C'était pas à Lina, c'était à Monte Carlo.
À la radio de Monte Carlo. Mmh. Bon, alors ça, oui, c'était fascinant. Effectivement, ce travail d'ailleurs très exigeant qu'elle avait fait oui. autour de la musique de Stravinsky, elle avait essayé de refuser et finalement Gainsbourg qui était encore le pas le chanteur, hein, mais le grand directeur de l'Opéra de Monte-Carlo l'avait persuadé de le faire. Vous venez, Mathieu Moulin, donc pour ce centenaire de rééditer un certain nombre de plages de Mado Robin dans un double CD chez Marianne Mélodie. En quelques mots, c'est quoi l'idée générale du disque ? C'est le meilleur de Mado Robin ?
C'est le meilleur avec des bonus, notamment un duo qu'elle avait fait avec Léonard Varenne à San Francisco, Rigoletto, ça c'est introuvable en France, et puis j'ai eu la chance, comme quoi là-haut on doit me guider, c'est pas possible autrement, de retrouver une bande qui est l'adaptation de La Chauve-souris de Strauss sous le nom de O Rosalinda. Oui. En fait, c'est une bande
étonnant,
de film,
hein, oui.
C'est une bande de synchro en français d'un film anglais. Et elle chante avec plein de gens de l'époque cette adaptation de Strauss qui est absolument délicieuse. Ça, c'est complètement inédit.
Voilà, et ça fait partie donc du nouveau double CD Mado Robin, une voix au firmament chez Marianne Mélodie, la maison que vous animez avec une production inépuisable, toujours passionnante. Et tiens, pour rendre hommage à quelqu'un d'autre qu'on a
oui.
Entendu tout à l'heure évoqué par Roberto Benzi, Lucien Lupi,
oui.
Une nouveauté là qui sort maintenant. On va écouter un petit extrait, c'est un
oui.
duo de Lucien Lupi et
Mathé
Alteri.
Spécial dédicace pour Dany qui nous écoute.
Dany Lupi,
oui.
Voilà, l'épouse de Lucien Lupi. On les retrouve donc Lupi et Mathé Alteri.
Si comme plus d'un amant, j'ai rêvé fréquemment d'un bel appartement. Jamais ne suis-je arrivé à pouvoir le trouver, l'appartement rêvé.
Nous aurons loin de la ville un coin tranquille, meilleur marché.
Là, quand nous serons nichés, on pourra nous chercher, nous saurons nous cacher.
Je vous vois déjà chez nous,
buvant du thé sur vos genoux,
avec du cul. Et des petits gâteaux secs.
Ah, quel bonheur se sentir sans gêne tous les demi-années, sans la bonne, sans personne à qui téléphoner, rien que nous vraiment seuls, bien seuls.
Le petit jour me surprendra, vous préparant du chocolat.
Ce jour-là, comme les autres jours, toujours.
Et finalement, certainement, comme nous aurons beaucoup d'enfants,
voyez ouais. tous deux, comme nous serons heureux.
Yeah.
même sans dire, sans gêneur, tous les deux, les amis, sans la banque, sans personne à qui téléphoner, rien que nous, vraiment seuls, bien seuls, seuls.
Un petit jour, elle me surprendra, vous préparant du chocolat.
Ce jour-là, comme les autres jours, toujours. Certainement, comme nous aurons beaucoup d'enfants, voyez tous deux comme nous serons.
Le duo de Nono Nanette par Lucien Lupi et Mathé Alteri qu'on salue, ça vient de paraître dans la collection Les Voix d'Or, Lucien Lupi volume 2, c'est toujours chez Marianne Mélodie. Merci d'avoir été avec nous ce matin, cher Mathieu Moulin.
Merci Benoît.
On se retrouvera donc tous les amoureux de Mado Robin au printemps pour l'inauguration de ce centre dont nous a parlé Geoffroy Boulard, le maire du 17e.
Absolument, au printemps, je vous attends tous, toutes et tous. Voilà. On fera certainement quelque chose de très sympathique avec peut-être conférences, expositions, cocktails, enfin, elle le mérite, vraiment, elle le mérite.
Roberto Benzi, je rappelle, ben voilà, ça, 70 ans de carrière, c'est absolument extraordinaire, phénoménal, c'est lié aussi à vos débuts si jeunes. Et vous continuez, vous serez au printemps à Genève pour la fête de la musique.
Oui, pour la fête de la musique. Disons que le rythme des concerts s'est vraiment assagi. Heureusement, j'ai franchi la barre des 81 ans, ça fait beaucoup.
Oui.
Mais bon, je suis encore en bonne santé, j'ai des élèves, évidemment, qui viennent me consulter pour des conseils sur le répertoire, l'interprétation, enfin, j'essaie de rester dans le giron.
Ben voilà, bah écoutez, c'est merveilleux. Et moi, ce que j'espère, c'est que vous allez venir nous voir prochainement pour parler de votre carrière, et non pas cette fois de Mado Robin ou de Jeanne Roth, mais de Roberto Benzi lui-même.
Hein. Avec joie, Benoît.
Voilà, ce sera un grand plaisir de vous retrouver dès que possible. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Roberto, à bientôt.
À bientôt.
Merci Mathieu Moulin.
À
très bientôt. On va se retrouver avec un peu d'opérette. C'est la règle dans cette émission quand même. Elle en a fait un peu, Mado Robin,
bien
et
sûr.
Notamment au disque. On écoute un extrait d'Aimer, boire et chanter.
Avec vous,
voilà, Mado Robin, encore une fois, dans l'opérette Aimer, boire et chanter, d'après l'œuvre de Johann Strauss, un disque édité comme la plupart de ceux qu'on a entendus ce matin chez Marianne Mélodie, et en particulier celui qui vient de paraître, Mado Robin, une voix au firmament. Voilà, tout le reste, vous le retrouvez sur Internet, ainsi évidemment que les enregistrements de Roberto Benzi.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec notre ami Serge Laïc. Mais tiens, puisque nous sommes presque arrivés au réveillon, j'ai retrouvé pour vous cet extrait d'une autre opérette chantée, si je me rappelle bien, par Georges Guettari.
Minuit vient de sonner, c'est la nouvelle année. Chacun peut s'embrasser en se souhaitant de vivre longtemps. Oui, chantez, dansez, surtout amusez-vous. Car quand je vais chanter à Pékin, à Londres, à Rome, à Berlin, je m'arrange toujours pour passer le réveillon à Paris. Moi qui suis un vagabond, mon cœur a mille raisons d'être présent pour fêter le réveillon à Paris. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, la neige peut tomber ce soir. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, c'est quand même une nuit d'espoir. Ah, 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 si je pouvais changer les jours du calendrier, je ferai du premier de chaque mois le réveillon à Paris.
Madame, connaissez-vous votre voisin? Non? Alors serrez-lui la main. On est tous là pour passer le réveillon à Paris. Monsieur, connaissez-vous votre voisine? Comment? Vous dites que c'est votre cousine. Elle est venue pour fêter le réveillon à Paris. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, la neige peut tomber ce soir. Oh, oh, eh, oh, oh, c'est quand même une nuit d'espoir. Ah, ah. Au monde, il y a cette merveille, des cieux au bleu sans pareil. Mais il n'existe qu'un seul réveillon.
Combien êtes-vous à avoir reconnu cette opérette de 1958? Haha, ça s'appelait Pacifico, c'est une composition de Jomoutet et c'était donc le réveillon à Paris chanté par Georges Guettari dans cette opérette Pacifico. Mais il est temps de retrouver maintenant Serge Laïc pour notre rendez-vous mensuel. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
J'avais d'ailleurs envie d'ajouter, si vous voulez tout savoir de Jomoutet, vous consultez Les Arrangeurs de la chanson française, le livre de Serge Laïc qui vient de paraître, grand succès. Hein.
Oui,
bravo
oui.
Serge.
Merci beaucoup Benoît. Bon alors, pour terminer l'année 2018, et avant de profiter en musique, dans quelques instants, des pistes enneigées, bien, j'aimerais tout d'abord saluer la mémoire de Charles Aznavour, disparu il y a déjà 3 mois, par un coup de chapeau, grâce à la maestria du Britannique Russ Conway, spécialiste renommé du piano bastringue. Il joue On ne sait jamais, superbe version, accompagnée par l'orchestre de Geoff Love.
Thank you.
Russ Conway dans cette version piano-bastringue d'On ne sait jamais d'Aznavour avec l'orchestre de Geoff Love en 1959. C'est très joli pour commencer, Serge Laïc.
Merci.
Et on l'a compris, vous nous proposez pour bien finir l'année une sorte de divertissement musical.
Hivernal,
varié.
Hivernal.
Voilà.
Et donc je vous propose un voyage avec plusieurs solistes et chefs d'orchestre. L'entrée en piste d'abord du pianiste et chef américain Skitch Anderson, musicien hyperactif sur plusieurs fronts, comme à la télévision, où il dirigea le fameux Tonight Show, qui était un très célèbre show à la télé il y a quelques années, sur la chaîne NBC. Skitch Anderson fut aussi très présent sur scène, où il dirigea des dizaines de concerts au fil des ans, jusqu'en 2005, année de sa disparition. Ou encore en enregistrant des dizaines d'albums dont est extraite son étincelante version du classique Winter Wonderland, traduisé « Paysages d'hiver féeriques ».
L'Orchestre Philharmonique de New York. Alors ça, vraiment, cher Serge, je ne savais pas que l'Orchestre Philharmonique de New York avait fait de la musique légère.
Eh oui, hein. Et oui,
je découvre ça avec vous. Et avec Skitch Anderson dans Winter Wonderland, sous la direction de Skitch Anderson. C'est dans votre album,
oui.
La magie des grands orchestres internationaux, que vous avez édité. Où ça, comme par hasard?
Chez Marianne Mélodie.
Marianne Mélodie, salut à notre ami Mathieu Moulin, qui était là tout à l'heure et qui fait tant de choses dans tous les genres. Oui. Vous avez fait plusieurs disques ensemble, vous avez des projets encore en musique légère. Instrumental,
tout
peut-être.
À fait. On a quelques projets avec Mathieu, justement.
Bon, bah, c'est très, très voilà. Bien, on s'en réjouit. On les attend.
Absolument. Alors, retour en France avec un duo pour le moins étonnant et je dirais même détonnant, celui réunissant Maurice André et un certain Michel Legrand que vous connaissez très bien.
Un petit peu,
Benoît.
Oui.
Ils interprètent ensemble Sleigh Ride, la promenade en traîneau, célèbre air de circonstance en cette période de fête, évidemment, avec l'aide du London Symphony Orchestra, rien de moins, sous la direction du maestro Michel Legrand, bien sûr. Michel Legrand qui a concocté pour l'occasion des arrangements somptueux pour l'immense trompettiste Maurice André. Maurice André nous avait évoqué ce disque de Noël en 1998.
C'est un Noël que nous avons voulu faire avec Michel Legrand, des Noëls internationaux qui nous viennent de tous les pays du monde, pour essayer de rapprocher les êtres humains qui en ont tant besoin actuellement. Dans ce disque, bon, il y a un grand orchestre, l'orchestre qui a fait la guerre des étoiles, par exemple, pour ne citer que celui-ci. Et il y a mes enfants, il y a Béatrice, naturellement, qui joue du hautbois, et mon fils Nicolas qui fait la trompette. Et le talent de Michel Legrand n'est plus à féliciter, parce que c'est vraiment un génie, même, je dis. Et il a fait donc des arrangements pour 100, 120 musiciens, et c'est quelque chose d'incroyable. Avec, dans ma famille d'instruments, il y a le bugle, le cornet à piston, la petite trompette, la trompette avec les sourdines et tout ça. Quand on a fait le disque, j'ai dit, oh là là là, réunir Michel Legrand, Maurice André, ça va pas être possible. Vous verrez ce que je vous dis. Et puis je me suis trompé.
Thank you. Et c'était donc Maurice André avec Michel Legrand dans Sly Ride en 1998. C'est drôle parce que Serge, je croyais que notre ami Michel avait arrêté de faire des arrangements dans les années 60, mais en fait, il en a fait quand il avait envie.
Tout
encore.
Tout à fait. Quand ça lui plaisait, il continuait à en faire. Avec même des chanteurs comme Nana Mouskouri, Johnny Mathis et tous les grands chanteurs
d'accord,
internationaux.
D'accord. Très bien.
Alors, la neige encore avec Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, la neige, il neige, merci. Il neige. Musique superbement jouée par le grand orchestre d'André Kostelanets, maestro américain d'origine russe, auteur d'innombrables albums de musique populaire instrumentale pour le label Columbia pendant plusieurs décennies, plus de trois en tout cas. Pour la petite histoire, Benoît, André Kostelanets fut longtemps l'époux de Lily Ponce, la renommée soprano.
Let It Snow en 1963 dans la version symphonique donc d'André Kostelanets, un des petits cadeaux de fin d'année de notre ami Serge Laïc.
Alors, comment terminer cette chronique à la veille de la nouvelle année sans boire ensemble un verre de champagne? Alors, c'est Fred Rosendahl qui nous l'offre avec Champagne Gallo, musique que notre regretté ami Pierre-Marcel Onder, l'un de vos chroniqueurs préférés quand même, cher
bien
Benoît.
Sûr,
eh bien, Pierre-Marcel, vous l'oubliez pas, PMO. Alors, il utilisa cette musique comme indicatif pendant plusieurs années pour son émission Musique pittoresque sur les antennes de Radio France. Champagne, monsieur Rosendahl.
Thank you.
Champagne Gallo d'Hans Christian Lumbi en 1959 par les Troubadours et Fred Rosendahl au xylophone. Merci Serge Laïc.
Merci Benoît.
Et je vous souhaite un très joyeux nouvel an par avance.
Bah, vous aussi.
Avant de vous retrouver en 2019.
Merci.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Sofiane Actib, réalisation Olivier Guérin. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je recevrai Bertrand Tavernier pour parler de musique et cinéma à l'occasion d'un week-end exceptionnel qui se prépare à Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.